Bonjour à tous. Sur France Culture, il est midi. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table. Mais tout de suite, quelques titres du journal de 12h30 avec Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À Bruxelles, les discussions de la nuit n'ont pas encore levé les obstacles à un accord visant à convaincre les Britanniques de rester dans l'Union européenne. Les négociations ont repris ce matin. On sera en ligne tout à l'heure avec Quentin Dickinson. Sur la question des migrants, l'Europe n'a pas vraiment avancé. Les dirigeants européens affichent simplement leur intention de convoquer un nouveau sommet extraordinaire avec la Turquie. Ce sera sans doute au début du mois prochain. Le Conseil constitutionnel valide les interdictions de réunions et les perquisitions administratives qui étaient prévues par l'état d'urgence. Les sages avaient été saisis de deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées par la Ligue des droits de l'homme. C'est Florence Turm qui nous dira exactement en quoi consiste cette décision, cette validation du Conseil. À l'étranger, la Turquie bombarde toujours intensément depuis hier soir des zones contrôlées par les Kurdes dans le nord de la province d'Alep, en Syrie, dont nous parlera tout à l'heure Eric Biegel. Et puis le pape François qui suscite des remous après avoir estimé que Donald Trump, le favori du camp républicain à la présidentielle américaine, n'est pas chrétien. Une personne qui veut construire des murs et non pas des ponts n'est pas chrétien, affirmait donc le pape François dans l'avion qui le ramenait du Mexique. Qu'un leader religieux mette en doute la foi d'une personne est honteux, rétorque Donald Trump. L'invité de la séquence interview tout à l'heure, ce sera Jean-Marc Four, directeur de la rédaction de France Inter, qui publie ses chroniques sur la mécanique médiatique. Voilà donc pour les titres, c'est à vous. Caroline Lagrande-Table.
Merci Antoine Mercier, c'est une spéciale série aujourd'hui. En deuxième partie, après votre journal, notre invité sera le fondateur de l'Institut français des relations internationales, l'un des plus grands spécialistes de géopolitique, l'un des penseurs de notre monde aujourd'hui, Dominique Moisy, qui prolonge sa recherche sur les émotions dans le monde avec un essai sur la géopolitique des séries. Et tout de suite, rencontre entre deux scénaristes pour une plongée dans la fabrique d'une série télé à la française.
Centaines de milliers de kilomètres en avion, en train, en voiture, pour en arriver là. Et tout jouer sur un coup. Tapis.
Francis, il n'y a pas 50 solutions. Soit t'es un sphinx, distant, impérial, soit tu le chopes par le callback et tu le bastonnes jusqu'à ce qu'il pisse le sang.
Ouais, dans les deux cas, on dira que je suis arrogant.
Et alors ?
Eh ben alors, toujours pareil, arrogant, méprisant, prétentieux.
C'est merveilleux.
Ah bon, c'est merveilleux.
On te demande d'être le meilleur, mais il faudrait que tu restes modeste. Ça n'existe pas. Ce qu'ils veulent les gens, c'est un patron. Allez, en piste.
Est-ce que c'est vraiment obligatoire de travailler pour avoir le droit d'être quelqu'un ?
10 000 inactifs vont être sélectionnés pour aller travailler en ville.
Désormais, nous voulons à nouveau vous considérer comme des citoyens à part entière.
Ce sont des jours difficiles qui se préparent.
Il faut que ça marche. Sinon, ce sera la faillite générale.
Je suis Isia Cattel, votre emploi solidaire.
Tu as vu la solidaire ?
Quoi ?
Comme tu ressembles, c'est incroyable.
78% des actifs pensent que les solidaires sont une menace pour leur emploi.
Bonjour Jean-Baptiste Delafont.
Bonjour.
Vous êtes co-scénariste avec Éric Benzekri de la nouvelle série politique de Canal+, Baron Noir. 8 épisodes de 55 minutes diffusés tous les lundis depuis le 8 février et jusqu'au 29, c'est tout le mois de février. Bonjour Antares Bassis.
Bonjour.
Vous êtes le créateur avec Sophie Yette de Trépalium, dont on vient d'entendre un extrait après Baron Noir. La nouvelle série d'anticipation diffusée sur Arte, 6 épisodes de 52 minutes. Les 3 premiers ont été diffusés jeudi dernier. Et les 3 derniers, hier soir. Baron Noir raconte les aventures politico-financières d'un député maire du Nord, de Dunkerque, animé par un désir de revanche sociale. Trépalium se passe dans un monde futur, pas très loin du nôtre. Enfin, on espère que ça n'arrivera jamais, mais enfin, en tous les cas, c'est pas dans 100 ans. Dans un monde où 80% de la population est au chômage et vit dans une zone séparée des actifs par un mur infranchissable, un monde dans lequel le gouvernement impose, pour éviter une menace terroriste à venir, elle est déjà présente à vrai dire, d'employer aux salariés, impose d'employer plusieurs zonards. Et puis les choses évoluent dans ce monde-là. On a donc d'un côté une série politique, de l'autre une série d'anticipation. Est-ce que tous les deux, au départ, vous aviez l'envie d'écrire une série d'un genre particulier, ou bien c'est l'histoire qui a imposé le genre ? Antares Bassis.
Bah, l'envie, elle vient toujours de ce qu'on regarde et de ce qu'on ressent, et aussi des expériences qu'on voit autour de nous. Avec Sophiette, en fait, on était très intéressés on constatait que le travail était de plus en plus synonyme de souffrance. Et du coup, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, et que ça avait des répercussions sur les relations sociales, familiales, sur notre propre rapport à l'individualité. Et du coup, on s'est dit que peut-être la meilleure forme de pouvoir en parler, nous, on aime bien inscrire en tout cas nos histoires à travers du genre. Donc on s'est dit, plutôt que ce constat, on le fait. Maintenant, comment le rendre attrayant pour le public? Et du coup, on avait très envie de l'inscrire dans le genre de l'anticipation, qui est un genre qu'on adore. Parce qu'en fait, ça ne parle que du monde d'aujourd'hui. Voilà. Et en tout cas, nous, c'était très important, voilà, d'utiliser ça et d'utiliser des codes qui existent déjà, d'inventer des univers, d'inventer des personnages. Voilà.
Donc, un sujet d'abord, mais aussi un genre pas très loin derrière.
Ouais, nous,
qu'en est-il pour vous?
Dès le départ, on voulait assumer le genre. L'avantage du genre, c'est que c'est une sorte de contrat passé avec le spectateur, avec le public. Il y a des codes, il y a des figures, et donc on joue avec cette attente qui est connue du public. La série politique, c'est pas un genre qui est très vaste, et en l'occurrence en France qui est très tout petit encore. Mais beaucoup de gens se réfèrent à House of Cards pour parler de la série beaucoup moins. Alors que West Wing est beaucoup plus influencé Baron Noir, d'autant qu'on a commencé à écrire House of Cards n'existait pas, donc on l'a découvert en cours de route, et c'est vrai qu'il y a un petit point commun, un petit élément narratif commun au début, donc ça renforce la comparaison. Mais en fait, House of Cards fait partie d'un genre, Borgen, etc. Et toute série qui est dans ce genre-là n'est pas House of Cards, même si pas mal de gens ont cette sensation-là, évidemment.
Vous êtes l'un et l'autre habitués à écrire des séries, ou est-ce que l'envie partant pour vous, Antares Bassis, avec votre co-créatrice Sophiette, de parler d'un sujet d'aujourd'hui, d'actualité, vous vous êtes dit, c'est bien de le faire sous la forme des séries, parce qu'aujourd'hui, les séries ont le succès qu'on connaît?
En fait, nous, l'idée de Trépalium, elle remonte depuis quelques années. En fait, en 2007, j'avais réalisé un moyen métrage qui s'appelait L'emploi vide, hein, que j'avais coécrit avec Sophiette, qui était de parler, qui était avant la crise des subprimes. Et l'idée, c'était que l'État, pour relancer la consommation, obligeait des actifs à employer des chômeurs pour leur donner une sorte de salaire. C'était au moment des emplois vides, voilà. Et donc, du coup, en fait, l'histoire de Trépalium, enfin, cette genèse, elle est assez fou parce qu'en fait, elle est née d'un court métrage. Et du coup, on trouvait qu'il y avait quand même matière à développer ça face à ce qu'on voyait dans l'actualité, effectivement, la crise des subprimes, d'autres crises qui étaient arrivées. Et on a essayé de se dire, mais quelle serait la forme la plus adaptée? On est allé voir une productrice, Katia Rice, avec ce court-métrage et des idées de le développer. On s'était dit que la télé, il y avait quelque chose qui changeait en 2012. Il y avait un rapport qui était assez intéressant sur l'effet sociétal. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer d'écrire sur ça. Et en fait, au départ, c'était parti d'un unitaire. Et puis après, on est allé sur répondre pour des offres de 3x52. Et après, on est allé sur du 6x52 en se disant que c'était la meilleure forme de le raconter.
Et ça pourrait même continuer d'une certaine façon. On pourrait dire que ça continue. Mais Antares Bassis, on pourrait presque dire que votre série est la série politique des deux. Enfin, elle est évidemment Baron Noir, mais elle est très politique en fait, votre série d'anticipation Trépalium, parce que c'est une réflexion quand même sur le devenir du travail dans notre société, sur ce que cela implique en termes de lien social, en termes de souffrance, comme si vous aviez envie que ensuite les spectateurs, qui sont aussi des citoyens, s'emparent de ce sujet pour y réfléchir et peut-être agir sur leur propre vie.
Oui, absolument. C'était quelque chose qui était pas prémédité, mais en tout cas, Sophie et moi, on avait vraiment l'envie de s'emparer de ce sujet et Parce qu'on voyait autour de nous qu'il y avait des choses qui étaient, qui avaient une matière de dramaturgie, et que autour de nous on voyait que qu'on ait du travail, hein, ça pouvait être synonyme de souffrance, et qu'on voyait des burn-out, des dépressions et des choses comme ça qui se déroulaient de plus en plus, et que quand on n'en avait pas, on se retrouvait dans une sorte de vide social. Et effectivement, on se disait, est-ce qu'il n'y a pas une matière de créer des personnages qui peuvent raconter ça, et du coup d'ouvrir une réflexion. Voilà, mais toujours en s'amusant, en jouant de la dramaturgie, en se rentrant. Enfin, voilà ce qui est l'avantage du côté sériel. Donc, évidemment, c'est politique d'une certaine manière, mais on n'a pas forcément cherché à l'être a priori. Après, c'est le sujet. Voilà.
Ah, c'est, ouais, moi, je trouve que c'est totalement politique. Mais ce qui est amusant, c'est que l'anticipation, en fait, commence là où nous on termine, et c'est vraiment une contrainte dramatique pour nous, pour expliquer les choses. C'est-à-dire que nous, comme on est en miroir du présent. On est dans une espèce de couloir parallèle qui résonne avec le présent, alors qu'on raconte un autre possible, mais au présent, on raconte un autre possible au futur. Et nous, dès lors qu'on commence à raconter une situation politique qui va produire ses effets, c'est-à-dire, je ne sais pas, comme je ne veux pas spoiler la série, je ne sais pas, par exemple, on imagine quelqu'un qui décide de faire une réforme qui change totalement le monde du travail, pour raisonner avec Trépalium. Si cette réforme réussit, le problème, c'est que nous, après, on est dans de l'anticipation. On a basculé, on n'est plus dans notre ADN, on devient une série d'anticipations. Donc on ne peut pas se permettre ça, on est obligé de travailler avec le réel politique du moment. Ce qu'a fait évidemment West Wing sur une longue période, avec un dialogue permanent avec les candidats et les présidents élus, avec parfois du retard, parfois de l'avance, et un jeu de dialogue. Donc voilà, nous, c'est vrai que c'est tout à fait politique, l'anticipation, mais voilà, il y a un rapport à l'avenir, un rapport au présent, c'est assez différent.
Et de la même façon que la série d'anticipation apparaît comme politique, la série politique apparaît comme un thriller, Jean-Baptiste Delafont. Parce qu'il faut quand même du rythme, j'imagine, ouais. Et que créer de la contrainte dramaturgique sur une série politique, c'est-à-dire filmer des hommes et des femmes politiques dans leur quotidien, ouais. Puisqu'il y a un vrai souci de réalisme, et de montrer aussi presque sociologiquement ce qu'est le monde politique, eh bien, il faut que derrière, il y ait
du rythme. Oui, mais la réalité, on la connaît, elle n'est pas très joyeuse, elle est même très sombre, et puis elle est très décomposée, donc bien sûr, nous on a cherché une dramaturgie très forte pour tout en essayant de tenir notre ambition de réalisme, enfin de crédibilité, mais c'est il a fallu muscler le jeu en permanence, et ça a été le travail avec la production et Canal beaucoup,
avec Eric Benzekri, oui, qui d'une certaine façon vous a apporté son expérience, puisqu'il a été la plume de Jean-Luc Mélenchon, la plume de Julien Drey, surnommé lui-même Baron Noir.
Il a un vrai parcours de militant, de dirigeant, et donc il y a un certain nombre, il y a tout un matériau qu'il a amené. Après, il y a beaucoup de gens qui ont l'expérience qu'il a eue. C'est pas seulement le fait qu'il ait vécu, c'est aussi une manière de le raconter, en fait, qui fait que c'est pas seulement quelqu'un, un insider, mais c'est un scénariste. Mais c'était évidemment essentiel au projet.
Mais dans les deux cas, d'ailleurs, l'écriture du scénario s'est faite à plusieurs. Vous étiez deux, Jean-Baptiste Delafont, avec Eric Benzekri. Et j'ai lu dans le dossier de présentation, Antares Bassis, que non seulement vous êtes deux créateurs avec Sophie Yette, mais que du point de vue des scénaristes, vous étiez même plusieurs. Vous étiez quatre, avec Thomas Caillé et Sébastien Mounier. Alors c'est quoi déjà la différence entre créateur et scénariste, et qu'apporte l'écriture collective, qui peut être un peu plus difficile parfois que quand on est tout seul?
Nous, on est vraiment, le créateur par rapport à Trépalium, nous on est vraiment arrivé avec le concept de l'univers, des personnages et une trajectoire de l'histoire et des personnages. Ensuite, et donc du coup, c'était quand même, parce que quand on fait de l'anticipation, il faut tout poser. Il faut poser les règles, les postulats, les choses comme ça. Donc tout ça, on l'a apporté dès le départ. Et du coup, c'est ça qu'on a apporté à la productrice d'abord, puis après à Arte, en définissant bien les règles sur lesquelles on se posait. Parce que le problème, c'est vraiment le problème qu'on a eu en France, souvent avec la science-fiction, l'anticipation, c'était un petit peu, on ne voulait pas tout aborder, parce que du coup, on réinvente complètement un monde. Mais du coup, de bien canaliser les mondes, celui de la zone, celui de la ville, comme le fonctionnement politique, puisqu'il y a tout à réinventer aussi, le fonctionnement même des rapports humains, puisqu'il y a à réinventer. Donc tout ça, on l'a vraiment mis en place et on a écrit toute la trame sur les 6 épisodes de ces personnages. Et après, sont venus en renfort d'autres scénaristes qui sont venus nous épauler dans le cheminement des scénarios.
Dans le cheminement du scénario, dans la construction également des personnages, parce que vous avez un personnage central qui est une figure féminine, qui est Isia Cattell, jouée par Léonie Simaga, on n'en dira pas plus. Mais il y a aussi d'autres personnages qui sont très importants. Ruben Garcia, Noah, qui est le fils d'Isia, Jeb et sa femme Lisbeth, qui est jouée par Lubna Azabal, Robinson, qui est interprété par Olivier Rabourdin, très beau casting au passage dans cette série, et puis la première ministre, qui est interprétée par Ronit El-Kabet. Alors, est-ce que ça veut dire que chacun de vous s'est emparé d'un personnage? J'imagine que non, vous n'êtes pas répartis comme
en fait,
ça. Comment vous êtes-vous réparti l'écriture?
Non, ce qui se passe en fait, c'est qu'on arrive au tout départ avec ce qu'on appelle dans le jargon une mini-bible, une bible, hein, voilà, donc qui est un peu une sorte de... Il y a des personnages qui sont posés avec leurs problématiques, leurs dilemmes, voilà. Donc du coup, on arrive avec tous les personnages principaux, voilà. Donc c'est ça qui se passe. Et après, on définit aussi les concepts de l'univers, comme je le disais tout à l'heure, et on arrive avec un premier pilote, voilà, qui est plus sous forme de synopsis, qui est une trame un petit peu de comment l'histoire va se passer sur le premier épisode. Voilà, et c'est comme ça qu'on a présenté en tout cas le projet à Arte. Et du coup, Arte, lui, ce qui était vraiment bien au-delà de la proposition de l'anticipation, c'est qu'ils ont vraiment flashé sur les personnages. Ils se sont dit c'est super et tout ça. Il y a vraiment du conflit, du romanesque. Voilà, et ça leur plaisait. Et du coup, on s'est lancé dans ça avec la seule chose que Arte nous a demandé de repréciser, c'était de définir des personnages politiques qu'on n'avait pas trop définis au départ.
Vous n'avez pas appelé Jean-Baptiste Lafont.
Non, et du coup, on était un petit peu angoissés avec Sophie, tout en étant excités, parce que du coup, c'est toujours amusant d'imaginer ce que serait, comment se comporteraient des politiques face à des situations de crise telles qu'on le voit au quotidien. Et du coup, on s'est lancé.
Dans l'inconnu,
voilà. L'avantage de l'anticipation et de la science-fiction, c'est qu'on est dans du genre, donc du coup, on n'est pas forcément habilité à tout maîtriser les codes de la politique et tout ça, et qu'on peut les regarder avec un regard impressionniste, poétique, décalé, absurde, voilà.
Alors, comme vous êtes scénariste l'un et l'autre de série, peut-être connaissez-vous Anne Landois, qui est la scénariste d'Engrenage. Engrenage qui a reçu en novembre dernier les International Emmy Awards, c'est-à-dire de la meilleure série dramatique américaine. C'est-à-dire que c'est la plus grande récompense de télévision américaine. Elle l'a obtenue en novembre 2015, mais pour cette série qui est bien française. Sur ce travail d'écriture, écoutez ce qu'elle dit.
La première étape, elle est faite par mon co-scénariste qui s'appelle Éric de Barahir et qui est commissaire de police de son état. Donc lui, son premier travail, et la saison d'Engrenage a commencé par ça, c'est qu'il écrit une trame policière écrite du point de vue des flics. Donc ce sont des enquêtes en général assez fouillées, c'est écrit de façon extrêmement réaliste parce qu'il nous fait part de son travail, des difficultés qu'il a eues. C'est souvent inspiré de faits réels, souvent il mélange plusieurs histoires les unes avec les autres. Et à partir de ça, à partir du moment où on a cette arche policière, on réfléchit à la façon dont on va faire intervenir nos héros policiers. Après il faut bâtir la fiction. Donc on a des faits bruts, maintenant il faut bâtir la fiction, les enjeux personnels. Une fois qu'on a nos héros policiers, on s'est dit, bon, maintenant comment on va faire intervenir le juge d'instruction dans cette affaire? Parce que à chaque fois, en fait, tout le monde intervient dans les histoires. Alors, à différents degrés et pendant des temps différents, mais en tout cas, tout le monde finit par s'intéresser, par se retrouver autour de cette intrigue. Donc on essaye de voir comment le juge intervient, puis ensuite comment l'avocate intervient, et à chaque fois en tissant des fils, c'est un travail de couture très précis qui se fait au fur et à mesure, mais au départ on a l'intrigue policière, voilà. Et petit à petit on fait rentrer nos autres personnages.
Alors vous, Jean-Baptiste Delafont, au départ vous n'avez pas l'intrigue policière, mais vous avez des situations politiques. De ces situations politiques sont nés les personnages, parmi eux le héros, un certain Philippe Rigvart, qui est joué par Cadmerat, qui est très impressionnant dans son rôle. Mais il y a évidemment aussi le président de la République, Francis Laugier, qui est interprété par Nils Arestrup et qui fait penser à un ancien président de la République française. Vous avez aussi Amélie Dorandeux, qui est une sorte de représentante de la gauche technocratique bourgeoise, qui est interprétée par Anna Mouglalis. Comment avez-vous construit ces personnages? Est-ce que vous avez vous aussi travaillé en couture, comme le disait Langlois?
Oui, à un moment, bien sûr. Nous, on a eu un peu une non-méthode. Enfin, si, on a une méthode, mais on fait pas de Bible. On travaille tout de suite dans l'histoire. Et en fait, on va très vite, c'est un peu boutique, mais très vite faire des versions dialoguées. Par contre, on va les réécrire énormément. Donc, c'est aussi pour ça que c'est pas évident de travailler avec d'autres scénaristes et qu'on a un peu, on est un peu dans notre bulle comme ça. Et on commence quand même par la politique, en effet. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être pas comme l'enquête policière, mais comme c'est pour nous c'est une vraie série politique, en tout cas ce qu'on a voulu faire au sens où c'est la politique qui, c'est des hommes qui sont au service de la politique. C'est chaque épisode, le moteur de chaque épisode est purement politique et la manière dont les personnages évoluent entre eux ne pourrait pas évoluer de cette manière-là si c'était dans un autre milieu. Et c'est pas une affaire qui se passe dans le milieu politique ou une histoire d'amour qui se passe dans le milieu politique, c'est une histoire politique. Donc on est obligé, même si on sait très bien que au final l'enjeu c'est de réussir à ce que les personnages dominent et embrassent le récit et que la politique soit avalée par la force des personnages, parce que c'est quand même une fiction, un divertissement, etc. C'est assez long et c'est à force de versions et la première étape c'est donc d'abord d'avoir simplement un début, un milieu, une fin sur 8 épisodes et puis de travailler chaque épisode ce moteur qui est alors c'est un peu déstabilisant pour nos interlocuteurs parfois ces premières étapes parce qu'on a l'impression que c'est un peu désincarné, que c'est un peu mécanique ou que c'est très, très intello. Mais on est obligé de passer par là. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres méthodes.
Vous citiez tout à l'heure deux références américaines de séries politiques, The West Wing à la Maison Blanche et House of Cards. On verra tout à l'heure, d'ailleurs dans la deuxième partie avec Dominique Moisy, que ça représente une évolution du monde, le passage de l'idéalisme, pour le dire très schématiquement, à la Maison Blanche au cynisme de House of Cards. Est-ce que vous vous êtes inspiré, modèle ou anti-modèle, de ces deux séries américaines, avec d'ailleurs l'idée derrière, qui est qu'on a toujours le sentiment, même si ça commence à être remplacé par les excellentes séries françaises dont les vôtres, que la série américaine fonctionne toujours mieux que la série française, en termes d'efficacité, en termes de rythme, etc. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'une façon ou d'une autre, d'ailleurs l'un comme l'autre, des séries américaines? Je commence par vous donc, Jean-Baptiste Delafont.
Forcément, en tout cas, on a infusé avec les séries qu'on aime. Eric, lui, c'est un grand passionné de West Wing et qu'il a vu quand il était encore en politique et qui a été une des raisons pour lesquelles il a quitté la politique. Pas quitté la politique, mais il a envie d'écrire. Au début, c'était un peu facile, mais c'est comme ça qu'on l'avait pitché. On disait c'est les Sopranos, Tony Soprano à la Maison Blanche. C'est-à-dire un personnage très ambivalent au cœur du pouvoir. C'est vrai qu'en plus avec Cad, qu'un petit côté sopranesque, on a continué à y faire référence. Mais en fait, je pense qu'on a au final un personnage qui est quand même qui a plus de lumière que Tony Soprano et qui a pas ce côté. Les Sopranos, c'est une chronique. Bon, on est très très fan, mais c'est un mode narratif qui est très différent. C'est-à-dire, on a les moments de creux, on a le quotidien, on a tout ça. Donc, on a un espace pour la dépression du personnage et ça fait beaucoup de la saveur de la série.
Nous, ce n'est pas du tout votre cas.
Non, nous, on est dans quelque chose où on avance beaucoup vite. On a mis un an à trouver cette dynamique-là. Donc, c'est pas des références. Il y a une référence de cinéma. On a beaucoup parlé aussi avec le réalisateur, parce qu'on était très présent à ses côtés, et c'était super qu'il partage cette référence.
C'est Ziad Doueri.
Ziad Doueri, c'est un film de Michael Mann, The Insider, Révélation. Donc, c'est pas un film politique, ça se passe pas dans le milieu politique, c'est une intrigue judiciaire, mais le moteur est vraiment c'est le droit qui conduit le récit. Ce qui est un petit peu le cas aussi parfois dans une série politique où on est contraint par les mécaniques institutionnelles, la constitution, etc. On n'invente pas. Ça, c'est des passages. On est obligé de passer par là. Et The Insider, c'est un film qui est très, très savant, très compliqué et pourtant absolument divertissant et passionnant. Donc, voilà. C'était
son meilleur film d'ailleurs, Michael Mann.
C'est peut-être son meilleur film, ouais.
Antares Bassi, quelles ont été vos sources d'inspiration?
Nous, on est sériephiles et cinéphiles avec Sophie, mais c'est vrai que par rapport à l'anticipation, on avait plus des références cinématographiques. Parce que, en tout cas, il y en avait deux qui étaient assez importantes, parce que du coup, il faut donner des références un peu pour que les producteurs et que les chaînes soient rassurés en termes de moyens. Et puis, il y avait énormément ce contexte de moyens en allant chez Arte, qui était quand même où il y a un peu moins de moyens qu'à Canal+, ou à France Télévisions et tout ça. En tout cas, nous, nos deux références qu'on a apportées dès le départ, c'était les Fils de l'Homme de Cuaron. Et Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol, qui avait cette particularité de faire de l'anticipation sans montrer les moyens, de manière assez réaliste, de manière assez épurée, et qui se focalisait, qui se concentrait sur les personnages. Voilà. Et nous, quand je l'avais déjà fait en court-métrage avec L'Emploi Vide, et quand on l'a approché avec la productrice et avec Arte, on s'est dit, on peut faire une série d'anticipation en France, on n'a pas besoin de déborder d'effets spéciaux à l'américaine, voilà, mais de se concentrer sur le sujet même et sur les personnages.
Moi, j'ai pensé à Carré Blanc aussi.
Oui, absolument, de Leonetti.
Qui est moins connu, mais
absolument. Mais c'est
vrai. Pourquoi? Et du coup, qu'est-ce qui vous a fait penser?
Je trouve dans l'intelligence des moyens pour rendre crédible un univers d'anticipation, et puis aussi même dans la thématique un peu.
Non, mais il y avait des références. Même en France, la Nouvelle Vague s'était emparée de ce genre. Godard avait fait Alphaville, Truffaut avait fait 451 Fahrenheit, et c'était c'était fait avec des moyens du bord, voilà. Mais ce qui était plus important, voilà, en tout cas, c'était la sobriété des moyens pour pouvoir parler de cette histoire qui, en soi, était de l'anticipation et ça suffisait de la rendre crédible. Après, on a eu des sources d'inspiration, de séries, dans le rapport politique, que ça soit Boss, que ça soit aussi sur la fin d'un monde.
Est-ce que vous avez voulu aussi vous sortir d'une influence qui est très, très prenante et très pesante, peut-être, pour les réalisateurs de séries françaises aujourd'hui, de l'influence des séries américaines ou même des fictions américaines? Est-ce que vous avez éprouvé ce besoin ou au contraire, très bien, nourrissons-nous des succès de ce qui fait l'efficacité de la fiction américaine, Antares Bassi?
L'idée c'est toujours un peu de s'anticiper, mais après on est comme dans toute forme artistique, on se nourrit des choses, voilà. Donc effectivement, on a ces premières références. Après, l'idée c'est on ne s'y réfère pas tout le temps en cours de l'écriture pour pas que ça soit écrasé. Et puis au bout d'un moment, ça devient la voix de créateurs qui ont leur propre réflexion. Donc du coup, voilà. C'est une sorte d'influence, comme en peinture, voilà, de choses pour pouvoir créer.
Oui, vous en êtes nourri. Voilà. Jean-Baptiste Delafond disait qu'avec Éric Benzekri, ils avaient travaillé auprès du réalisateur de Ziad Doueri au moment où ils écrivaient les 8 épisodes.
Oui, pendant la fabrication.
Pendant la fabrication. Donc, que on n'a pas eu de passage, disons, de l'écriture à la réalisation de mondes séparés avec un mur infranchissable comme notre épalium. Ça s'est passé de la même façon avec le réalisateur Vincent Lanoux pour vous?
Non, nous, sur cette série-là, en fait, c'était plus il y a une écriture qui a été faite avec les scénaristes Sébastien Mounier, Thomas Caillé et la créatrice Sophie Yette, et après un réalisateur est venu qui n'a pas touché au texte et qui s'est emparé de l'univers.
Et c'est sur le générique de fin de Baron Noir que l'on se quitte. Merci beaucoup à tous les deux, Antares Bassis et Jean-Baptiste Delafond. Baron Noir est diffusé en ce moment par série de 2 tous les lundis jusqu'au 29 février sur Canal+. Puis à partir du 30, on pourra le voir en VOD et en DVD. Trépalium est désormais en replay sur Arte pendant 7 jours, ainsi qu'en DVD édité par Arte. Merci à tous les deux.
Merci.